Je vais présenter l'accord stratégique transpacifique de partenariat économique, le partenariat transpacifique TPP pour les intimes. Surtout, pas tant présenter l'accord comme tel, mais la politique commerciale des États-Unis en lien avec l'accord. C'est vraiment le fer de lance, la politique commerciale américaine en Asie. Donc, façon en quatre étapes, présenter dans le fond pour les États-Unis c'est quoi le TPP, voir l'historique d'élaboration de l'accord, le lien avec la politique commerciale, puis en quoi est-ce que ça s'oppose aux différents modèles d'intégration en Asie. Le TPP, c'est un ensemble qui est assez hétéroclite. 12 pays. En Amérique, on a les partenaires de l'ALENA. On a le Chili et le Pérou, qui sont des économies très ouvertes. En Asie, c'est encore plus hétéroclite. On a des pays anglo-saxons d'Océanie. On a des pays comme la Malaisie. Aussi des petits États insulaires, Singapour, très ouvert, Brunei, une importance marginale dans ce cas-ci. Et très intéressant, le Vietnam, qui est un pays en développement, qui est en transition économique. Donc, on a une espèce de melting pot de pays et du point de vue, ben, pas juste des États-Unis, mais de tous les partenaires, ça crée des défis qui sont importants parce que les intérêts offensifs et défensifs des différents partenaires sont très différents. Donc, pour les États-Unis, en fait, si on regarde les flux de commerce, 82% du total des exportations de marchandises, 71% des importations de marchandises des États-Unis dans le TPP, c'est l'ALENA. Donc, j'ai oublié le Japon maintenant. Donc, le restant, à part, dans le fond, pour l'ALENA, qu'est-ce qui est important pour les États-Unis dans le TPP? C'est essentiellement le Japon. On a déjà des accords de libre-échange aux États-Unis avec le Canada, le Mexique, évidemment, avec l'Australie, avec Singapour, avec le Pérou, puis le Chili. Donc, les pays avec lesquels on n'a pas d'accord de libre-échange, ce qui est important, c'est le Japon. Sinon, entendons-nous, là, Brunei, Malaisie, Nouvelle-Zélande, c'est des flux de commerce qui sont assez négligeables pour les États-Unis. Au niveau du PIB, le TPP, c'est un ensemble important, presque le tiers plus que le tiers du PIB mondial, presque 26 milliards et demi, 26 000 milliards et demi de dollars, une population importante, étant donné qu'il y a des économies asiatiques en croissance qui participent, il y a un potentiel de croissance qui est assez élevé. Pour les États-Unis, j'ai les chiffres ici en bas, au niveau des marchandises et services, ça représente environ 40% de toutes leurs exportations et pour les importations, 35% de toutes leurs exportations, toutes leurs importations. Avec l'ensemble des pays du TPP, les États-Unis ont un déficit de à peu près 75 milliards de dollars au niveau de leur balance commerciale. Si on enlève le déficit pétrolier avec le Mexique et le Canada, en fait, ils sont en léger surplus commercial. Donc, origine du TPP, qu'est-ce que c'est que cette bébite-là? À la base, ça vient d'un accord qui s'appelait le P4, le Pacific Four, qui réunissait Brunei, Chili, Nouvelle-Zélande, Singapour. C'est, dans le fond, quatre pays qui ont décidé de se regrouper pour former, pour devancer, dans le fond, ouais, pour récupérer la politique de libéralisation de la PEC qui avait été plus ou moins abandonnée. Je vais y revenir. Donc, un accord, somme toute, négligeable entre quatre économies petites mais très ouvertes. Négociation de 2003, l'accord entre en vigueur en 2006.
Et cet accord-là avait cette caractéristique à la base, qui était conçu d'abord comme un partenariat, c'est-à-dire que avec des processus institutionnalisés de coopération forts entre les partenaires, mais surtout dans l'accord, on disait que c'était un accord ouvert sur les nations de l'Asie-Pacifique qui étaient appelées à grandir. Donc, du P4 au TPP, l'USTR Suzanne Schwab est entrée en négociation avec les pays du P4 dès 2006, en fait, mais officiellement à partir de 2008, d'abord pour signer un accord sur les investissements. Ensuite, au courant de l'année 2008, on a annoncé que les États-Unis ont annoncé qu'ils signeraient un accord de libre-échange avec le P4. Et là, à la fin de l'année, s'est ajouté Australie, Pérou, Vietnam. Là, ça commençait déjà à être un ensemble plus important. Il y a eu une pause dans l'évolution de l'accord, crise économique oblige, arrivée d'Obama au pouvoir. Il y a eu une réévaluation de la politique commerciale américaine en 2009, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais à la fin de 2009, sous l'impulsion notamment d'Hillary Clinton au département d'État, puis avec la reconfiguration de la politique commerciale américaine, on a décidé d'aller de l'avant avec le TPP et d'en faire, dans le fond, vraiment le fer de lance de la nouvelle politique commerciale américaine. Donc, depuis 2010, depuis qu'on a vraiment relancé le processus TPP, on a eu la Malaisie qui s'est joint à l'accord. En novembre 2011, on a publié, parce que évidemment toutes les négociations sont secrètes, il y a très très peu de choses qui filtrent au niveau du texte de l'accord. En novembre 2011, on a présenté un accord cadre à défaut de pouvoir s'entendre sur un accord final. Mexique, Canada sont joints l'été dernier. Ensuite, la Thaïlande a entamé des consultations, mais c'est pas joint. Et le Japon, tout récemment, il y a deux semaines, s'est joint à l'accord. Donc, on a un TPP à 12 pays, relativement important, 16 phases de négociation. C'est des négociations extrêmement complexes, comme j'ai mentionné au début, avec plusieurs intérêts qui s'entrechoquent. Et il apparaît évident maintenant que les négociations vont s'étirer en 2014. Donc, les objectifs officiels, un accès complet au marché, on vise l'élimination complète des barrières tarifaires et non tarifaires. L'idée d'un accord régional ouvert, c'est fondamental dans le TPP. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir un accord qui est négocié et dans lequel on a des partenaires qui s'impliquent dans les négociations au fur et à mesure qu'on avance. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à terme la création d'une zone de libre-échange en Asie-Pacifique. C'est de pouvoir inviter d'autres pays à se joindre à l'accord. Qu'est-ce qui est caractéristique de cet accord-là? Ce sont essentiellement les questions transversales, les enjeux de gouvernance. On va plus loin que le cadre ALENA. On dépasse, dans le fond, essentiellement toutes les formes de cadre de régionalisme qu'on connaît pour essayer d'arriver à une forme d'harmonisation des règles entre les États. On parle d'harmonisation au niveau des pratiques aux douanes, on parle d'harmonisation réglementaire au niveau... vraiment, c'est assez profond comme... c'est un accord qui est assez intrusif dans les règles nationales des États. Donc, en plus, c'est un accord qui va traiter des nouveaux enjeux commerciaux qu'on ne traite pas particulièrement à l'OMC, surtout que Doha est sur la touche. Donc, commerce électronique, les droits de propriété intellectuelle, les États-Unis reviennent avec pour ceux qui connaissent un peu la question, les États-Unis reviennent à la charge avec le cadre de l'accord commercial anti-contrefaçon, même plus. Donc, on va aussi essayer d'avoir des chapitres sur les sociétés d'État, ce qui est aussi tout à fait nouveau et ce qui est très important en Asie. Je vais revenir là-dessus, là, parce qu'il y a des pays comme le Vietnam ou même la Malaisie ou Singapour où les sociétés d'État sont encore très importantes. Accord dynamique et ouvert. Bon. Donc, quelques constats. Le constat que je voudrais que vous reteniez de ma présentation aujourd'hui, c'est que on cherche un accord très en profondeur, un accord ouvert, mais surtout, on cherche à imposer un modèle. On cherche à imposer un modèle de régionalisation pour l'Asie qui n'est pas celui qui est privilégié par l'ASEAN ou par la Chine. Et on cherche à vraiment créer une zone de libre-échange d'Asie-Pacifique. Donc, trois objectifs stratégiques. Assurer une présence en Asie. Les États-Unis sont en train de se faire écarter au niveau des relations diplomatiques et stratégiques en Asie. Donc, on essaie de servir du TPP pour assurer une présence stratégique en Asie. On s'attaque d'abord aux barrières non tarifaires. Oui, on veut réduire les tarifs sur les marchandises. La réalité, c'est que dans le TPP, à l'exception du Japon et du Vietnam, peut-être, c'est essentiellement des économies assez ouvertes. Le taux de barrière tarifaire NPF est très bas. C'est des économies qui ont déjà un ensemble d'accords entre elles. Donc, l'objectif, c'est pas d'éliminer les tarifs comme tel, c'est d'aller au-delà de ça, puis d'aller éliminer les barrières non tarifaires et donc sortir du bol de nouilles. Vraiment consolider les différents accords qu'on en a. Je vais passer très rapidement sur la politique commerciale en Asie. D'abord pour dire, pour mentionner le fait que les États-Unis, avant les années 80, avant le modèle ALENA, les États-Unis n'étaient pas particulièrement chauds à l'idée du régionalisme. C'est quelque chose qui est assez récent. Quelles constantes on peut en tirer? Ben, il reste qu'il y a une logique dans la politique commerciale américaine qui est l'internationalisme libéral qui forme une constante entre les différentes politiques commerciales des différentes administrations. Le commerce ne doit pas simplement servir à trouver des marchés, des débouchés d'exportation pour les États-Unis. On a aussi l'idée que l'ouverture des marchés étrangers, ça apporte la stabilité, ça apporte la paix, ça apporte le développement. Au niveau du régionalisme, l'ALENA, pendant longtemps, a été le modèle, pas juste pour le régionalisme, en fait, pour tous les accords commerciaux bilatéraux des États-Unis. Donc, on essaie de dépasser les limites du cadre GATT-OMC. Pendant les années 90, l'administration Clinton s'est vraiment ouverte à cette idée d'aller créer, de se rapprocher à travers un accord régional des économies asiatiques à travers la PEC. En 93, les États-Unis ont annoncé en grande pompe qu'ils essaieraient de trouver une forme de libéralisation à la PEC. En 94, on a les objectifs de Bogart, qui est essentiellement un objectif à très long terme, mais on a dit en 2010, on voudrait que les économies développées de la région arrivent à former, dans le fond, un accord de libre-échange. Et 2020, on arriverait au libre-échange pour les économies en développement. Ce qui est arrivé avec la PEC, c'est que très rapidement, on a vu deux voies émerger. Les deux voies qu'on voit toujours aujourd'hui, d'ailleurs. On a la voie asiatique et la voie américaine, ou la voie anglo-saxonne. Les pays anglo-saxons de la PEC, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, ont essayé de mettre de l'avant des pratiques plus légalistes, plus contraignantes. Et les pays asiatiques ont prôné, et ça c'est de toute beauté, ont prôné le terme traduit en français, c'est l'unilatéralisme concerté. Essentiellement, ça veut dire qu'on va libéraliser chacun à notre rythme, on va chercher le consensus, c'est l'approche consensuelle. Bref, ça n'aime pas grand-chose. L'unilatéralisme concerté, c'est chacun pour soi, essentiellement. Ça ne fait pas du régionalisme très, très fort. Donc, les États-Unis ont un peu laissé de côté la PEC. Arrive l'administration Bush. On a une vision de la politique commerciale qui doit servir d'abord des intérêts stratégiques, sécuritaires. On a beaucoup d'accords qui ont été signés pendant la période de l'administration Bush, mais essentiellement des accords avec des alliés relativement peu importants. On a délaissé la vie. À l'exception, bon, de cette initiative pour joindre le TPP à la toute fin de l'administration Bush. Arrive l'administration Obama. Là, on voit un véritable retour des États-Unis en Asie. Là, on a réalisé, dans le fond, quelques constats un peu alarmants dans l'administration. On a la montée de la Chine, qui de plus en plus est capable d'imposer sa vision de l'intégration puis de la politique en Asie. On a la création d'une architecture régionale qui est en train d'exclure les États-Unis. On parle évidemment de tout le processus ASEAN, ASEAN plus 3, ASEAN plus 6, l'accord trilatéral. C'est toutes des formes d'organisation qui laissent de côté les États-Unis. Et autre chose qui a, autre facteur important qui a poussé les États-Unis à agir, c'était l'activisme de Hillary Clinton, qui a été très, très, très impliqué dans l'administration pour encourager les États-Unis à développer une politique cohérente en Asie. Et cette politique cohérente-là, elle s'est organisée autour du TPP. Donc, la question de l'endiguement de la Chine, c'est un terme qui est un peu qui est lourd de sens, mais je l'emploie quand même. C'est pas l'endiguement de la guerre froide, mais c'est un peu la même logique. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec le TPP? On cherche à s'associer des pays amis pour créer un réseau de règles et de normes commerciales qui va contraindre la Chine à jouer les règles du jeu, américain.
C'est sympa.
Il y a une espèce de double discours. Il y a le discours un peu électoraliste qui dit la Chine ne sera jamais capable de joindre le TPP. Ils ne sont pas là. Ils ne respectent pas les règles du jeu. Ils ne respectent pas les règles de la concurrence. Il y a aussi l'autre discours qui est un discours beaucoup plus ouvert. Où on invite la Chine à se joindre au TPP. On s'entend, ce ne sera pas pour tout de suite, mais la logique est quand même là. Je pense que c'est quand même une logique de porte ouverte. Les États-Unis, ils cherchent à créer un ensemble de règles et éventuellement à imposer ces règles-là du libre-marché à la Chine. Pourquoi l'Asie? Ben, il y a un constat très, très simple. Les chiffres sont peut-être trop petits, vous ne le verrez peut-être pas. J'ai ici la balance courante totale des États-Unis en trimestriel, puis la balance totale, la balance courante des États-Unis avec l'Asie. La totalité des déficits de la balance courante américaine sont concentrés en Asie. Si on regarde le restant du monde, les États-Unis sont à peu près à l'équilibre au niveau de exportation, biens, services, transfert de rapatriement de profits, des investissements. Donc, très important pour les États-Unis de trouver une place ou une façon de percer les marchés asiatiques. Donc, je le répète, bien qu'important, l'objectif premier du TPP n'est pas l'élimination des tarifs douaniers sur les marchandises, mais plutôt de faire tomber les barrières non tarifaires et d'étendre les normes et pratiques commerciales en vigueur aux États-Unis. Les États-Unis ont un déficit commercial important, on vient de le montrer avec l'Asie, c'est vrai, mais ils sont bons dans trois choses. Ils sont bons dans l'exportation de services, ils sont bons dans la production de produits à haute valeur ajoutée qui dépendent de la protection des droits de propriété intellectuelle, puis ils sont bons dans les investissements. Ils investissent énormément en Asie, ils rapatrient beaucoup de profits. Les firmes transnationales américaines rapatrient beaucoup de profits depuis l'Asie. Le TPP, le cadre TPP, est pensé pour permettre à ces secteurs-là dynamiques de l'économie américaine de fleurir en Asie. C'est pour ça qu'on met l'accent sur les chapitres sur les droits de propriété intellectuelle, c'est pour ça qu'on met l'accent sur les règles sur sur le transfert, sur le rapatriement des produits. On veut ouvrir les marchés pour les investissements. Si vous avez besoin d'une... C'est dommage que c'est trop petit, je pensais que ça aurait été plus grand. Ce que ce tableau-là démontre, balance du compte courant, puis j'ai les années 92 à 2011, on a la balance des marchandises, balance des services, revenus de placement. Au niveau de la balance des marchandises, les États-Unis ont un déficit croissant très, très, très important.
On a un déficit en 2011 de presque 750 milliards de dollars au niveau de la balance de marchandises. Ça, c'est en général avec le monde entier. Ce déficit commercial-là, il est compensé par quoi? Il est compensé par un surplus très important au niveau de la balance des services et qui est croissant, surtout depuis les dernières années. Ça a doublé le surplus, même triplé le surplus des services américains au cours des dernières années. C'est compensé aussi par les revenus de placement. Les firmes transnationales rapatrient beaucoup, beaucoup de profits aux États-Unis.
Donc, le TPP, c'est quoi? C'est 29 chapitres qui sont basés sur le modèle de l'accord de libre-échange avec la Corée plus. C'est donc... On reste dans le modèle ALENA, mais plus, plus, plus. J'ai mis la liste des différents enjeux. Essentiellement, 1 à 20, c'est toutes les mêmes choses qu'on retrouve dans les accords de libre-échange des États-Unis avec, par exemple, Pérou, tous les plus récents. Pérou, Colombie, Panama, Corée. Et les nouveaux, c'est ça. Ça, c'est ce qui est nouveau. Puis ça, c'est ce qui fait que le TPP va plus loin que les accords qu'on a connus jusqu'à date. On veut avoir une cohérence réglementaire entre les États. On va avoir des règles sur les sociétés d'État, sur le commerce électronique, les chaînes logistiques. Aussi un accord sur les petites et moyennes entreprises, très intéressant. Les États-Unis ont vraiment mis un gros accent là-dessus dans leur politique commerciale, essayer de permettre aux petites et moyennes entreprises américaines de participer au commerce international. C'est un partenariat, il y a des accords de coopération et des règles sur l'entrée temporaire des personnes. On veut faciliter le mouvement des cadres, essentiellement, des entreprises. Les enjeux litigieux, j'aurais pu faire une présentation d'une heure juste là-dessus. Ils sont très nombreux. Il y a des obstacles importants. Il n'est absolument pas dit que les États-Unis vont réussir à imposer un cadre aussi strict, aussi sévère qu'ils le souhaitent. Ça va être un gros jeu d'échange au niveau des intérêts entre les États, comme toute négociation plurilatérale, évidemment, mais là, il y a vraiment, à cause des niveaux de développement très différents, à cause des formes d'État très différents, c'est tout un challenge. Au niveau, bon, par exemple, de l'agriculture, les États-Unis voudraient ouvrir le secteur agricole. On en a parlé avec le Japon, ça va être très difficile. Est-ce que le Canada va décider d'abandonner ses quotas sur la production laitière, sur la production Bref, il y a des gros, gros problèmes. Les règles d'origine du textile, c'est un problème directement lié à l'économie vietnamienne. Qu'est-ce que les Vietnamiens... Pourquoi le Vietnam est dans le TPP? C'est pour pouvoir exporter du textile puis des vêtements aux États-Unis. Les États-Unis ont des règles d'origine extrêmement sévères au niveau... ils protègent encore, dans le fond, une partie de leur secteur manufacturier dans le textile qui n'est pas très compétitif, on s'entend. Donc, il y a des problèmes là. Au niveau des sociétés d'État, ça va être fondamental, ces négociations-là, parce que ça va vraiment venir, dans le fond, modifier ou mettre à terre ce qui reste du modèle développementaliste asiatique. Puis il y a des grosses résistances du Vietnam, de la Malaisie. On pense à une entreprise comme Petronas en Malaisie. C'est un géant qui est partout, puis qui est très proche du gouvernement, même s'ils disent « ouais, on est indépendant » et tout. Il y a des liens assez forts et pas sûr que les pays asiatiques vont être très intéressés à voir les États-Unis mettre des règles très strictes dans ce secteur-là. Bon, c'est bon, je suis dans les temps. Donc, bien d'autres encore. Pharmaceutique, c'est très, très délicat. Des pays comme, par exemple, la Nouvelle-Zélande ont un système de remboursement des médicaments qui ressemble un peu, mettons, à ce qu'on a au Canada. Les États-Unis voudraient pouvoir, dans le fond, libéraliser tout ce secteur, notamment en allongeant les protections accordées par les avec les brevets pharmaceutiques. C'est absolument pas intéressant pour la Nouvelle-Zélande. Ça augmenterait ses coûts de système de santé de façon énorme. Qu'est-ce que les États-Unis vont pouvoir donner à la Nouvelle-Zélande pour compenser ça? C'est pas clair. C'est même pas clair que les États-Unis vont pouvoir imposer leur vision au niveau des brevets, des droits de propriété intellectuelle dans le secteur pharmaceutique. D'ailleurs, les États-Unis sont très forts sur les acronymes. Leur proposition sur le pharmaceutique, ça s'appelait le TEAM, qui était, j'ai oublié le détail, mais tu sais, c'est, on dirait tous ensemble pour donner plus de droits aux grandes pharmaceutiques. Pas sûr que ça passe. Marché d'automobile au Japon, règlement des différends, l'Australie veut rien savoir de rentrer dans un accord qui va lui forcer à avoir un règlement des différends étant investisseur. Il y en a des enjeux litigieux. J'ai eu une approche presque réaliste là, dans mon exposé, où je dis, bon, les États-Unis veulent imposer leur façon de faire les choses en Asie, ils veulent imposer une vision qui est très proche des intérêts de leurs entreprises. C'est vrai, mais il ne faut jamais oublier que la politique commerciale des États-Unis est basée aussi sur certaines valeurs qui transcendent un simple commercialisme. On pense vraiment que par l'ouverture des marchés, on va arriver à créer plus de richesses, plus de croissance. Ce que les données statistiques démontrent pas toujours dans les accords signés par les États-Unis, mais cette idée-là reste profondément ancré, que le libre-échange, ça va amener plus de prospérité puis une croissance accrue pour les pays qui y participent. Donc, est-ce qu'on va réussir à dépasser le bol de nouilles? Présentement, il y a 73 accords de libre-échange entre les partenaires du TPP. C'est des règles d'origine différentes, ce sont des calendriers de libéralisation différents. Il y a des accords régionaux là-dedans, le P4, la NAS, l'ALENA. Il y a des politiques, il y a des propositions de d'accords régionaux concurrents, on en a parlé, le partenariat régional global, ou je ne sais pas comment tu l'appelles, la NAS plus 6 en fait. Donc, les États-Unis, la stratégie qu'ils ont utilisée à date dans les négociations, c'est de négocier des calendriers d'ouverture au niveau des biens qui serait seulement avec les pays avec lesquels ils n'ont pas d'accord. Et puis là, on va se retrouver avec une espèce de construction hybride où ce ne sera pas les mêmes calendriers de libéralisation pour les différents pays, même entre eux. Ça pourrait prendre pas mal de temps, ça pourrait être très complexe avant qu'on arrive vraiment à un libre-échange digne de ce nom dans le TPP. Et par contre, les pays sont entendus pour avoir des règles d'origine communes, ce qui risque d'être assez long à négocier aussi. Donc, je reviens sur un constat. En réalité, on a deux modèles qui sont en compétition. Un modèle asiatique qui donne un accès au marché prioritaire, qui cherche à diminuer les coûts de transaction, faciliter l'établissement de chaînes de montage, mais qui est dans une logique du plus grand dénominateur commun, qui est beaucoup plus ouvert à des exceptions pour protéger les secteurs sensibles. On a le modèle américain qui veut ouvrir les marchés sur une base légaliste, contraignante, qui assure l'égalité des conditions de concurrence et qui impose un régionalisme en profondeur d'un type relativement nouveau, c'est-à-dire qui s'attaque à des enjeux qu'on ne voyait pas avant. Donc, question ouverte, est-ce qu'on va réussir à dépasser l'enchevêtrement un peu kafkaesque d'accords de libre-échange qui a émergé en Asie depuis 10 ans? On va voir.